Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. En commémorant le 72e anniversaire de TNI, le président indonésien Joko Widodo optimise que TNI sera plus respecté par d'autres pays. L'Indonésie et la Jordanie renforcent la coopération antiterroriste. L'Indonésie et la Norvège s'engagent à réaliser la mer Chen. Le ministre du Tourisme confirme que Bali est toujours en sécurité à visiter. La célébration et la remise du certificat du patrimoine culturel immatériel 2017. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'armée nationale indonésienne ou TNI célébrait son 62e anniversaire le 5 octobre 2017. À la commémoration du 62e anniversaire de TNI qui a tenu au port Indah Kiat Cilegon, Banten, le président Joko Widodo était observateur de cérémonie. Le président Jokowi a exprimé son remerciement pour plus de professionnalisme de TNI, garder le premier personnel et maintenir la souveraineté et l'intégrité de la République d'Indonésie ainsi que cinq principes fondamentaux.
Dan dengan penuh rasa optimisme, saya mengatakan bahwa TNI akan menjadi.
Avec l'optimisme, je déclare que l'armée indonésienne devient les forces armées qui sont plus respectées en permanence par d'autres pays, devient un grand pouvoir dans la région en Asie, et j'espère que TNI sera toujours le premier à maintenir l'unité, la souveraineté et l'intégrité de la République d'Indonésie. Selon le président Joko Widodo, l'Indonésie doit être un pays stable et chaque fois, l'Indonésie doit être attentif à la menace tant à l'intérieur et à l'extérieur à l'ère mondiale. Le président a ajouté que les Indonésiens doivent être unis et TNI doit également être unis avec d'autres institutions pour garder la souveraineté et l'intégrité de la République d'Indonésie. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, et son homologue jordanien, Ayman Safadi, ont convenu d'intensifier la coopération dans les efforts de lutte contre le terrorisme lors de la réunion bilatérale du ministère des Affaires étrangères de la Jordanie et le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta a déclaré récemment que les deux ministres des Affaires étrangères ont également convenu que le défi actuel était la menace régionale du terrorisme avec de nombreux combattants terroristes étrangers ou FTF qui sont revenus de plusieurs pays du Moyen-Orient. Lors de la réunion, Retno a mentionné la situation à Marawi aux Philippines comme l'exemple de la régionalisation des groupes terroristes. Cependant, la Jordanie est l'un des pays dont les citoyens deviennent des victimes parce que beaucoup de leurs citoyens ont rejoint le FTF. Par conséquent, les deux ministres ont souligné l'importance des efforts conjoints par la coopération et le partenariat pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a encouragé la discussion sur le mémorandum d'accord de la coopération antiterroriste et radicaliste. Les deux ministres ont appelé l'échange d'informations et de renseignements, la prévention du financement du terrorisme, la gestion de FTF, les programmes de déradicalisation et de dialogue interreligieux, ainsi que le renforcement des capacités comme partie de la portée de la coopération. Le gouvernement de la République d'Indonésie et le Royaume de Norvège se sont engagés à réaliser la mer saine afin de réduire l'impact du changement climatique sur les conditions maritimes mondiales. Pour réaliser ces cibles et programmes, l'Indonésie a certainement besoin de soutien des pays qui ont la même vision dans la protection marine. La Norvège est l'une d'entre eux, cela a été dit par la ministre des Affaires étrangères et des Pêches, Mme Susi Pujiastuti, dans un communiqué de presse. Jeudi, la ministre l'a déclaré après une réunion bilatérale avec le ministre norvégien de l'Environnement, Vidar Helgesen, à Malte récemment. La ministre Susi et le ministre Vidar ont également rencontré lors de la conférence de l'ONU sur l'océan au siège de l'ONU à New York en juin 2017. Dans la réunion, Susi a déclaré que l'Indonésie encourageait actuellement des programmes de nettoyage maritime, entre autres la gestion des zones protégées ou AMA, la protection des récifs coralliens et la conservation des mangroves côtières. Selon la ministre, l'Indonésie annoncera l'engagement d'atteindre l'objectif de 20 millions d'hectares de AMP dans la mise en œuvre de la conférence de l'océan qui s'éteindra à Bali en 2018. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le ministre indonésien du Tourisme, M. Arief Yahya, a déclaré que Bali était toujours en sécurité pour être visité, bien qu'actuellement on place le mont Agung, le volcan situé dans la région de Karang Asem à l'est de Bali, en alerte. Le ministre Arief Yahya, dans la région de Karang Asem à Bali, a déclaré que Bali était toujours en sécurité à visiter par les touristes domestiques et étrangers. Il est prêt avec divers types d'anticipation s'il y aura l'éruption du volcan Agung. Selon le ministre Arief Yahya, la destination touristique de l'île de Bali sont toujours très prêtes à recevoir des visites touristiques, sauf qu'il existe quelques destinations dans des zones sujettes aux catastrophes que le nombre n'est pas élevé. Concernant la gestion des catastrophes, il existe déjà la préparation à la récupération après une catastrophe. En outre, le gouvernement a préparé diverses options liées à la pire condition si le volcan Agung éclate. Le ministre de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie a organisé une cérémonie de célébration et la remise de certificats de la détermination du patrimoine culturel immatériel indonésien en 2017, qui a eu lieu récemment à Gedung Kesenian, Jakarta. La célébration culturelle a été assistée par le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, et le directeur général de la Culture, Hilmar Farid. Cet événement vise à protéger le patrimoine culturel immatériel dans le territoire de l'État unitaire d'Indonésie à travers l'inventaire, la sécurité, l'entretien, le sauvetage et publication concernant les collectivités locales, la communauté et le milieu universitaire. À cette occasion, le ministre Muhajir Effendi a déclaré que la loi numéro 5 l'année 2017 sur le progrès culturel qui a été approuvée et acceptée. Selon Muhajir Effendi, la légalisation de la loi qui était attendue pendant 15 ans être un déclencheur de la communauté pour continuer à préserver la culture de l'Indonésie, bien sûr avec la coopération de toutes les parties. L'activité qui a été menée depuis 2013 a déterminé 594 du patrimoine culturel immatériel de l'Indonésie. En 2017, il a été fixé 150 patrimoine culturel immatériel de 416 propositions entré par la session de détermination du patrimoine culturel immatériel de l'Indonésie du Vientiane au 24 août 2017 à Jakarta. Le pic de cette activité est marqué par la remise du certificat du patrimoine culturel immatériel aux représentants de chaque province et la remise des prix à la province avec le plus grand nombre de patrimoine culturel immatériel cette année reçu par Yogyakarta. La remise de certificat a été effectuée par le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, et le directeur général de la Culture, M. Hilmar Farid. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre « La visite du roi d'Arabie Saoudite en Russie est une nouvelle rencontre des relations entre les deux pays ». Le royaume d'Arabie Saoudite et la Russie entrent dans une nouvelle phase dans les relations bilatérales. La visite du roi Salman Abdelaziz Al Saoud cette semaine devient un élan pour les relations entre les deux pays. À partir du mercredi, le roi saoudien a commencé une série de visites de travail et s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Cet événement peut être appelé une visite historique car c'est la première fois qu'il faut effectuer. L'Arabie saoudite considère cela comme le début du renforcement de la coopération avec Moscou. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Abdel Al-Jubeir, a signalé l'importance de la visite de travail. Les dirigeants des deux pays ne parlent pas seulement des relations bilatérales, mais aussi la tension sur les problèmes régionaux. Bilatéralement, les deux pays s'intéressent à des questions économiques, en particulier à la gestion du pétrole et au commerce. L'Arabie saoudite, en tant que membre de l'OPEP, s'intéresse à la discussion avec Moscou. La Russie est connue comme l'un des grands pays producteurs et exportateurs de pétrole. La coopération entre la Russie et l'Arabie saoudite comme principal producteur pétrolier mondial aura certainement un impact sur le marché mondial du pétrole. Vu de la politique étrangère de l'Arabie saoudite, la première visite depuis la création du royaume reflète que Riyad cherche un nouveau partenaire stratégique, notamment par la politique de diversification des relations extérieures. La condition de l'économie du pays conduit à l'émergence de nouvelles pensées. Comme par exemple, l'Arabie saoudite ne devrait pas dépendre d'un ou deux pays malgré une influence potentielle et globale et forte en économique. Cette politique est reflétée par la visite précédente du roi Salman au Japon et en Chine. L'Arabie saoudite considère la Russie comme l'un des principaux acteurs de l'arène mondiale et joue un rôle majeur dans la région asiatique. Pour la Russie elle-même, l'amélioration des relations plus étroites avec l'Arabie saoudite peut entraîner non seulement gagner des intérêts économiques, mais aussi le renforcement de mouvements stratégiques de la Russie dans la région du Moyen-Orient. Comme nous savons, dans le conflit en Syrie, par exemple, l'Arabie saoudite et la Russie sont en position d'être opposées. La Russie soutient le régime du président Assad, tandis que l'Arabie saoudite soutient le groupe contre le gouvernement. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 6 octobre, la guerre de Yom Kippour. La guerre de Yom Kippour est connue sous le nom de guerre du Ramadan ou de guerre d'octobre. Était une guerre qui avait lieu du 6 au 26 octobre 1973 entre les États d'Israël, qui attaquaient par une coalition des pays arabes dirigée par l'Égypte et la Syrie. Cette guerre est terminée par la défaite et la destruction totale des pays arabes. Le 6 octobre 1973, au jour de Yom Kippour, la plus grande fête des Juifs, ce jour-là coïncidait également avec le mois de Ramadan. Pour les musulmans, les Syriens, les Libyens et les Égyptiens envahissent l'Israël. Le nombre de l'armée d'invasion est très grand. L'Égypte a pris d'expérience de la guerre de six jours en 1967 sur la faible défense aérienne. Alors, à ce moment-là, les trois quarts de la force aérienne égyptienne ont été totalement détruits, tandis que la Syrie est encore capable de fournir une résistance. Quand il s'est rendu compte que la flotte de chasse égyptienne utilise toujours une grande partie de la technologie ancienne, l'Égypte a finalement mis en place une stratégie de parapluie de l'air, utilisant des missiles et des canons anti-aériens qui se déplacent dans une gamme combinée. Le résultat est que cette stratégie a réussi parce que l'armée de l'air israélienne est finalement débordée et même beaucoup d'entre eux sont devenus des victimes parce qu'ils ont essayé de pénétrer dans le net de la défense aérienne. Le 6 octobre 1981, le président égyptien Anwar Sadat a été tué. Le grand général de Mohamed Anwar el-Sadat est un soldat et un politicien égyptien. Il a été le troisième président de l'Égypte dans la période du 15 octobre 1970 jusqu'à ce qu'il ait été tué au 6 octobre 1981. Par le monde occidental, il est considéré comme un peuple très influent en Égypte et au Moyen-Orient dans l'histoire moderne. En 1964, après avoir occupé divers postes dans le gouvernement égyptien, il a été élu par le président Gamal Abdel Nasser pour occuper le poste de vice-président. Il a occupé ce poste jusqu'en 1966 et 1969, jusqu'en 1990. Après la mort de Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat et Hafez al-Assad ont mené l'Égypte dans la guerre de Yom Kippour contre l'Israël pour répandre la péninsule de Sinaï que l'Israël a contrôlée pendant la crise du canal de Suez en 1956 et la guerre de Cisjour. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec la mise au point ayant pour le titre « Le président indonésien a annoncé l'action nationale en matière d'éradication des drogues illégales et l'abus de drogues ». Le président d'Indonésie, Joko Widodo, a lancé une action nationale pour éradiquer les drogues illégales et l'abus de drogues. Le président Joko Widodo, dans son discours lors de cet événement à Bumi Perkemahan et Graha Wisata Cibubur, à Jakarta de l'Est, mardi le 3 octobre 2017, a affirmé que l'État devait être présent et protéger toute la nation et tout le peuple indonésien. Selon le président, l'éducation est très importante. Par conséquent, les écoles, les internats, les enseignants sont très importants pour expliquer aux élèves, aux étudiants que les drogues illicites étaient très dangereuses. Le président Joko Widodo veut que l'agence de surveillance des aliments et des drogues BPOM soit plus renforcée en raison de la circulation croissante des drogues illégales parmi la communauté. Ce renforcement est destiné à une surveillance plus intensive. Pour cela, selon le président, dans l'avenir, on préparera des règlements parce que le renforcement de la BPOM est l'un des efforts à faire par la délivrance d'un parapluie juridique sous forme de loi. Le président Joko Widodo a confirmé que le rôle du BPOM était de plus en plus important dans la prévention de la circulation des drogues illégales dans la communauté. En outre, le président Joko Widodo a rappelé que la fonction de surveillance de BPOM n'était pas seulement les affaires administratives. Tout ce qui est fait doit être basé sur la sensibilisation pour protéger les gens et sauver la jeune génération de l'Indonésie. Il s'agit de la présence de l'État et du gouvernement dans la protection de son peuple, les affaires de sauver la jeune génération qui sera le futur successeur de la nation indonésienne. Cependant, le président a également souligné que la tâche de protéger les personnes contre la menace de drogue illégale n'est pas seulement une tâche menée par le BPOM seul. Tous les ministères, les agences et les gouvernements locaux sont invités à coopérer pour éliminer les drogues. Pendant ce temps, le chef de l'agence de surveillance des aliments et des médicaments, ou BPOM, Penny Kalukito, a déclaré lors de donner le rapport, le BPOM continue de renforcer la coordination afin de protéger le public de la circulation illégale de drogues et de nourriture. Il s'agit de suivre l'instruction présidentielle numéro 3 de 2007 sur l'amélioration de l'efficacité du contrôle des drogues et des aliments, qui implique des agents intersectoriels conformant à leurs fonctions, leurs tâches principales et les autorités respectives. Cela inclut également l'abus de certains médicaments par des communautés qui sont très nuisibles à la santé, même causant la mort. À l'avenir, Penny espère que la loi sur le contrôle des drogues et des aliments deviendra bientôt un parapluie réglementaire afin de protéger la société. Lors de l'action nationale sur l'élimination des drogues illégales et l'abus de drogue, il y a également des signatures d'actes avec l'élimination des drogues illégales et l'abus de drogue par 11 parties, entre autres le ministère de la Santé, l'Agence de surveillance des aliments et des drogues, la police nationale, le bureau du procureur général, l'association indonésienne des médecins, l'association des apothicaires de l'Indonésie et l'association des entrepreneurs pharmaceutiques. Chers lecteurs, c'était la mise au point pour ce soir.
L'armée nationale indonésienne ou TNI célébrait son 62e anniversaire le 5 octobre 2017. À la commémoration du 62e anniversaire de TNI qui a tenu au port Indah Kiat Cilegon, Banten, le président Joko Widodo était observateur de cérémonie. Le président Jokowi a exprimé son remerciement pour plus de professionnalisme de TNI, garder le premier personnel et maintenir la souveraineté et l'intégrité de la République d'Indonésie ainsi que cinq principes fondamentaux.
Dan dengan penuh rasa optimisme, saya mengatakan bahwa TNI akan menjadi...
Avec l'optimisme, je déclare que l'armée indonésienne devient les forces armées qui sont plus respectées en permanence par d'autres pays, devient un grand pouvoir dans la région en Asie, et j'espère que TNI sera toujours le premier à maintenir l'unité, la souveraineté et l'intégrité de la République d'Indonésie. Selon le président Joko Widodo, l'Indonésie doit être un pays stable et chaque fois, l'Indonésie doit être attentif à la menace tant à l'intérieur et à l'extérieur à l'ère mondiale. Le président a ajouté que les Indonésiens doivent être unis et TNI doit également être unis avec d'autres institutions pour garder la souveraineté et l'intégrité de la République d'Indonésie. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, et son homologue jordanien, Ayman Safadi, ont convenu d'intensifier la coopération dans les efforts de lutte contre le terrorisme lors de la réunion bilatérale du ministère des Affaires étrangères de la Jordanie et le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta a déclaré récemment que les deux ministres des Affaires étrangères ont également convenu que le défi actuel était la menace régionale du terrorisme avec de nombreux combattants terroristes étrangers ou FTF qui sont revenus de plusieurs pays du Moyen-Orient. Lors de la réunion, Retno a mentionné la situation à Marawi aux Philippines comme l'exemple de la régionalisation des groupes terroristes. Cependant, la Jordanie est l'un des pays dont les citoyens deviennent des victimes parce que beaucoup de leurs citoyens ont rejoint le FTF. Par conséquent, les deux ministres ont souligné l'importance des efforts conjoints par la coopération et le partenariat pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a encouragé la discussion sur le mémorandum d'accord de la coopération antiterroriste et radicaliste. Les deux ministres ont appelé l'échange d'informations et de renseignements, la prévention du financement du terrorisme, la gestion de FTF, les programmes de déradicalisation et de dialogue interreligieux, ainsi que le renforcement des capacités comme partie de la portée de la coopération. Le gouvernement de la République d'Indonésie et le Royaume de Norvège se sont engagés à réaliser la mer saine afin de réduire l'impact du changement climatique sur les conditions maritimes mondiales. Pour réaliser ces cibles et programmes, l'Indonésie a certainement besoin de soutien des pays qui ont la même vision dans la protection marine. La Norvège est l'une d'entre eux, cela a été dit par la ministre des Affaires étrangères et des Pêches, Mme Susi Pujiastuti, dans un communiqué de presse. Jeudi, le ministre l'a déclaré après une réunion bilatérale avec le ministre norvégien de l'Environnement, Vidar Helgesen, à Malte récemment. Le ministre Susi et le ministre Vidar ont également rencontré lors de la conférence de l'ONU sur l'océan au siège de l'ONU à New York en juin 2017. Dans la réunion, Susi a déclaré que l'Indonésie encourageait actuellement des programmes de nettoyage maritime, entre autres la gestion des zones protégées ou AMA, la protection des récifs coralliens et la conservation des mangroves côtières. Selon la ministre, l'Indonésie annoncera l'engagement d'atteindre l'objectif de 20 millions d'hectares de AMP dans la mise en œuvre de la conférence de l'océan qui s'éteindra à Bali en 2018. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le ministre indonésien du Tourisme, M. Arief Yahya, a déclaré que Bali était toujours en sécurité pour être visité, bien qu'actuellement on place le mont Agung, le volcan situé dans la région de Karang Asem à l'est de Bali, en alerte. Le ministre Arief Yahya, dans la région de Karang Asem à Bali, a déclaré que Bali était toujours en sécurité à visiter par les touristes domestiques et étrangers. Il est prêt avec divers types d'anticipations s'il y aura l'éruption du volcan Agung. Selon le ministre Arief Yahya, la destination touristique de l'île de Bali sont toujours très prêtes à recevoir des visites touristiques, sauf qu'il existe quelques destinations dans des zones sujettes aux catastrophes que le nombre n'est pas élevé. Concernant la gestion des catastrophes, il existe déjà la préparation à la récupération après une catastrophe. En outre, le gouvernement a préparé diverses options liées à la pire condition si le volcan Agung éclate. Le ministre de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie a organisé une cérémonie de célébration et la remise de certificats de la détermination du patrimoine culturel immatériel indonésien en 2017, qui a eu lieu récemment à Gedung Kesenian, Jakarta. La célébration culturelle a été assistée par le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, et le directeur général de la Culture, Hilmar Farid. Cet événement vise à protéger le patrimoine culturel immatériel dans le territoire de l'État unitaire d'Indonésie à travers l'inventaire, la sécurité, l'entretien, le sauvetage et publication concernant les collectivités locales, la communauté et le milieu universitaire. À cette occasion, le ministre Muhajir Effendi a déclaré que la loi numéro 5 l'année 2017 sur le progrès culturel qui a été approuvée et acceptée. Selon Muhajir Effendi, la légalisation de la loi qui était attendue pendant 15 ans peut être un déclencheur de la communauté pour continuer à préserver la culture de l'Indonésie, bien sûr avec la coopération de toutes les parties. L'activité qui a été menée depuis 2013 a déterminé 594 du patrimoine culturel immatériel de l'Indonésie. En 2017, il a été fixé 150 patrimoine culturel immatériel de 416 propositions entrées par la session de détermination du patrimoine culturel immatériel de l'Indonésie du 21 au 24 août 2017 à Jakarta. Le pic de cette activité est marqué par la remise du certificat du patrimoine culturel immatériel aux représentants de chaque province et la remise des prix à la province avec le plus grand nombre de patrimoine culturel immatériel cette année reçu par Yogyakarta. La remise de certificat a été effectuée par le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, et le directeur général de la culture, M. Hilmar Farid. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition aujourd'hui, je vais vous présenter la boisson de Jakarta, à savoir es goyang. Vous pouvez écouter nos émissions par www.voi.co.id ou bien par les gens courts 9525. La mémoire est le morceau de l'histoire qui peut être se rappelé par les photos, l'objet, même la nourriture. Jakarta dans le passé possède les richesses culinaires variées. Malheureusement, beaucoup de nourritures typiques sont rarement trouvées ou bien disparues. Situ Babakan est l'un des sites touristiques à Jakarta et le centre culturel de Betawi qui a la mission de préserver toutes les richesses culinaires à Jakarta. L'un d'entre eux est es goyang ou la glace secouée. Quand le soleil commence à piquer, d'habitude on cherche quelque chose de froid, comme crème glacée. Cette boisson est très populaire dans le monde. En général, il existe deux formes. Il est consommé dans un récipient et il est également consommé avec des bâtons. En Indonésie, il y a la crème glacée au bâton traditionnel qui était très populaire appelée es goyang ou chèque glacé. Presque tous les gens aiment cette crème glacée, y compris les touristes. La crème glacée est l'un des deux desserts glacés appartenant à la catégorie glace. Presque tous les gens aiment la crème glacée et il y a de différents types de crème glacée dans les différentes saveurs. Et aujourd'hui, vous pouvez profiter d'un traitement laitier congelé dans le coin à peu près toutes les planètes. Le nom de la crème glacée est unique, es goyang ou la chèque de crème glacée, en raison de la façon de secouer dans un wagon de glace. Elle est fabriquée à partir de lait de coco, le sucre et l'arôme des ingrédients naturels tels que les fruits frais. C'est facile à faire. Tous les matériaux sont mis ensemble, bien mélangés et cuits jusqu'à ébullition. Lorsque vous avez terminé, mettre la pâte dans un moule rectangulaire et ensuite le moule est inséré dans les boîtes contenant des éclats de glace. Comme son nom l'indique, cette crème glacée doit s'écouler pendant environ 5 minutes afin de geler plus rapidement. Et ensuite, le bâton de crème glacée est enfoncé dans le moule à glaçons. Esgoyan possède des saveurs variées. Vous pouvez sélectionner les saveurs à votre goût. Il y a des fraises, l'avocat, le durian, le jacques, le chocolat, le riz gluant noir et les haricots verts. Les goûts plus délicieux si on ajoute du chocolat avec une pincée de cacahuète. Vous pouvez demander au vendeur et il va tremper la glace dans le chocolat liquide. Bien sûr, le prix de la glace étant sa poudre de cacahuète grillée est plus cher que le prix normal. Aujourd'hui, n'est pas facile de trouver la glace au bâton traditionnel. Cependant, il y a quelques endroits à Jakarta où vous pourrez rencontrer les vendeurs de cette glace, entre autres dans la vieille ville de Jakarta et Pasar Baru. Là-bas, ils sont les vendeurs ambulants. Le prix n'est pas cher, environ 3000 rupiah. Mais si vous demandez du chocolat supplémentaire avec une pincée de cacahuète, le prix est 5000 rupiah. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en titre le festival Gandrung Sewu 2017. Serviteur, la ville côtière de Java de l'Est, Banyuwangi, se prépare à organiser une colossale activité de danse dimanche le 8 octobre 2017. En plus des rituels de Tumpeng Sewu et de la danse Seblang, un autre art culturel de Banyuwangi célèbre jusqu'à présent est la danse Gandrung qui est pleine de significations. La danse de Gandrung est l'art original de Banyuwangi qui a une longue histoire. Gandrung vient de la langage Banyuwangi qui signifie aimer, passion ou fascination. La communauté de Banyuwangi elle-même traduit le Gandrung comme une forme d'admiration de la société agraire de Blambangan à Dewi Sri comme déesse de Sri. Parce que selon la communauté locale, déesse de Sri a apporté la prospérité pour eux. Habituellement, la danse de Gandrung est présentée comme une forme de gratitude pour la communauté après la récolte. La philosophie du respect de déesse de Sri est l'esprit de la société pour développer et préserver la danse Gandrung à ce jour. Au debout, cette danse joue aux danseurs masculins au maquillage féminin. Mais avec le développement de l'islam dans la terre de Blambangan, Gandrung lanang ou Gandrung masculin ont commencé à s'effacer. En outre, la danse de Gandrung ne peut être dansée que les descendants de danseurs Gandrung, mais depuis les années 1970, de nombreuses femmes qui ne sont pas descendants de Gandrung ont également étudié cette danse pour maintenir sa durabilité. Maintenant, pour animer les arts, des milliers de participants participent au spectacle. Selon le régent de Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, la participation de la communauté au festival Banyuwangi a commencé à se développer. Même si depuis la première organisation de Gandrung Sewu, la communauté a participé avec enthousiasme à cet événement. Le festival de Gandrung Sewu, qui a été organisé régulièrement depuis 2012, est devenu l'un des aimants du festival de Banyuwangi. Un programme touristique annuel dans le quartier situé à l'extrémité orientale de l'île de Java. Cette année, le festival se tiendra le 8 octobre 2017 sur place de Boum. Non seulement la danse unique, le nombre de milliers de danseurs et le panorama avec l'arrière-fond du détroit de Bali font également ajouter le magnifique festival de Gandrung Sewu. Chers auditeurs, le festival de danse de masse est soutenu pleinement par le ministère du Tourisme. Le député du marketing du tourisme Nusantara, Esti Reko Astuti, espère le festival Gandrung Sewu 2017 a remporté de nouveau le record du musée indonésien au Muri. En 2012, la première organisation de ce festival a reçu un prix de Muri comme événement avec le plus grand nombre de danseurs, 1047 danseurs, et est une attraction touristique des touristes intérieurs et étrangers. Chers auditeurs, c'est l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique musicale. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons régionales de Sumatra de l'Ouest ou de Minang qui sont chantées par Tiara Moon. Écoutons la première chanson intitulée Pesan Buruan ou en français Le Message d'Oiseau. Chers amis, Pesan Bourouan, ou en français le message d'oiseau, est une chanson créée par Nuskan Sharif, chantée par Tiaramon, un chanteur qui vient de Sumatra de l'Ouest. Il est très populaire dans les années 1970. Il a chanté des chansons régionales de Minang et également Kono, comme l'un des chanteurs de Melayu. Chers amis, littéralement, Pesan Bourouan signifie le message d'oiseau. Cette chanson contient à propos de l'appel à conserver la forêt, ne pas détruire la forêt étant l'habitat de divers animaux, afin d'éviter les catastrophes naturelles comme les inondations et les glissements de terrain. Cet auteur-compositeur transmet son message d'une manière intéressante. Les oiseaux conseillent et demandent que les humains ne détruisent pas la forêt où ils habitent. Bien que ce soit une chanson ancienne, mais le message est toujours pertinent dans tout le monde. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons intitulées « Usa Diratoki » ou en français « Ne pas pleurer ».
Yeah.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. C'était des chansons régionales chantées par Tia Ramon. Usah Diratoki est l'une des chansons qui ont popularisé le nom de Tia Ramon parmi la communauté qui aime la musique, notamment la communauté qui aime les chansons régionales de Minang. Le mot de Usah Diratoki signifie « ne pas pleurer ». Cette chanson, dont les paroles sont comme pantoune, décrit également un peu la vie ou les habitudes des gens de Minang, comme les habitudes commerciales, les vêtements utilisés, et néanmoins le rythme de cette chanson est très agréable à entendre avec l'accompagnement de la nuance musicale de Minang. Cher ami, il n'est pas seulement connu pour son caractère vocal qui est fort. Tia Ramon est également un acteur-compositeur. L'une des chansons qu'il a créée, intitulée Badindin, qui est également connue comme l'accompagnateur d'une danse traditionnelle de Minang, c'est la danse de Indang. Tia Ramon est morte à Pekanbaru Riau en octobre 2000. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, écoutons la dernière chanson intitulée La pluie. Merci à tous et à bientôt.
Who?
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.